Elle ne représente qu'1% des océans de la planète, mais la Méditerranée est devenue la route maritime la plus meurtrière du monde. Selon l'Organisation internationale des migrations, plus de 800 personnes ont disparu depuis le début de l'année, la plupart en Méditerranée centrale, au large de la Libye, vers où l'Ocean Viking a mis le cap dimanche soir au départ de Marseille. Le navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, en remplacement de l'Aquarius, privé de pavillon, peut accueillir 200 à 300 personnes. Ou beaucoup plus s'il le faut, et sans doute devra-t-il ensuite patienter un moment le long des côtes avant de pouvoir accoster en lieu sûr. Il faudra qu'à nouveau des pays européens s'accordent sur une répartition des migrants dont l'Italie et Malte ne voudront pas. C'est le même scénario qui se répète et se répétera tant que les Européens n'auront pas mis en place un mécanisme automatique de prise en charge. L'Europe, qui doit aussi de toute urgence remettre en place les dispositifs de secours en mer, dont en attendant seuls les ONG se préoccupent, ces mêmes ONG que certains voudraient criminaliser au prétexte qu'elles feraient le jeu des passeurs, mais que le HCR, au contraire, salue, le Haut Commissariat aux réfugiés qui loue leur engagement, leur humanité et leur rôle inestimable. Pour en parler avec nous ce soir, Christian Reboul, référent migration pour Médecins du Monde. Bonsoir.
Bonsoir.
Smaïne Lacher, sociologue à l'Université de Strasbourg, auteur de Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile, livre paru chez Gallimard en 2018. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Avec nous également, depuis l'Irlande, Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Vous êtes avec nous, Damien Carême.
Oui, oui. Bonsoir.
Bonsoir à vous. Des migrants meurent en Méditerranée. Que fait l'Europe? C'est le téléphone sonne jusqu'à 20h. Vos questions, vos remarques au 01 45 24 7000 ou par courriel telson@radiofrance.com.
Yves Decamp, le téléphone sonne.
Premier auditeur ce soir, Jean-Robert, qui nous appelle de Villeurbanne. Bonsoir à vous, Jean-Robert.
Oui, bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, que je salue. Je voulais aussi saluer le HCR qui défend les ONG qui ne font pas le boulot de l'Europe. Et j'ai un peu honte d'être européen avec une Europe qui met en place des trucs de Dublin, du Frontex, mais qui met pas en place des choses de secours. Mmh. Et que c'est un peu la honte. Et c'est bien que vous fassiez une émission, mais je suis pas sûr que ça fasse réagir. Je voulais encourager les gens, puisqu'on a quand même ce pouvoir de payer des impôts. Donnez aux associations. Ça vous sera remboursé à hauteur de 60% de vos impôts quand vous avez la chance d'en payer. Et enfin, je voulais rajouter que la crise des migrants, enfin la peur de l'envahissement qui est manipulée par certains, elle est complètement fausse quand on regarde les chiffres, parce qu'il y a très très peu de réfugiés vraiment qui sont acceptés dans notre pays par an, donc faut arrêter le délire. Et en plus, c'est pas ça qui crée la pauvreté, c'est d'autres choses, d'autres systèmes économiques mis en place par l'Europe, et on a tourné en rond. Je crois que j'ai été court, on m'avait dit 40 secondes.
Mais c'est parfait. Ben, vous avez un peu brossé tous les thèmes qu'on va essayer d'aborder ce soir. Alors une réaction d'abord avec vous, Christian Reboul. Jean-Robert disait, il faut donner aux associations, il faut les aider. Vous n'allez pas dire le contraire. Hein. Je sais que SOS Méditerranée a lancé un appel aux dons, puisque le coût d'une journée en mer, hein, c'est quand même plusieurs milliers d'euros.
Non, tout à fait. L'action des ONG en mer Méditerranée est fondamentale. Il faut donner, leur permettre justement de pouvoir mener ces activités pour sauver les vies. Chaque vie sauvée est un succès, et aussi par la force d'interpellation finalement des bateaux qui sont actuellement en mer Méditerranée.
Vous avez des nouvelles d'Ocean Viking?
Alors oui, à la mi-journée, il se trouvait plus très loin de la zone de sauvetage. Mmh. Donc après cette escale à Marseille, donc il devrait en rentrer en action très prochainement.
Mmh. Damien Carême, vous aviez dit en étant élu sur la liste de Yannick Jadot, hein, aux dernières européennes, vous avez dit la politique d'accueil en Europe, ce sera mon dossier prioritaire.
Je confirme. On vient simplement de se mettre en place, puisque on est entré en fonction le 2 juillet dernier, donc c'est tout récent, et on est en vacances parlementaires depuis le 26 juillet. On a déjà eu une seule réunion de la commission, ce qu'on appelle Libé, c'est-à-dire celle qui s'occupe notamment du dossier migratoire. Et voilà, au sein du groupe des Verts européens, je serai justement porteur du dossier sur la réforme de Dublin, hein, du dispositif de Dublin. Donc je porterai, et c'est un dossier sur lequel on a déjà commencé à travailler, en demandant lors d'une première séance plénière qui s'est tenue à Strasbourg, que l'Europe organise le sauvetage en Méditerranée, parce que effectivement les associations, les ONG sont obligées d'affréter des bateaux pour le faire, mais c'est pas du ressort d'ONG normalement, c'est du ressort des États et de l'Europe de sauver ces personnes en mer.
Et vous comprenez donc ce que disait Jean-Robert à l'instant, cette honte aujourd'hui qu'ont certains face à l'immobilisme des Européens.
Complètement, je la partage de savoir qu'il y a encore eu 150 noyés la semaine dernière et qu'on est à 40 000 depuis les années 90. C'est un scandale sous nos yeux et on ne peut pas détourner le regard de ce drame qui est en train de se jouer sous nos yeux.
Smaïn Lachère, oui. vous avez dit que ce n'était pas une crise migratoire qu'on était en train de vivre, mais une crise du droit d'asile.
Oui, c'est pas une crise migratoire parce que depuis longtemps la question de l'étranger a été et reste encore aujourd'hui un problème pour les États nationaux. En revanche, l'asile est un enjeu absolument fondamental car aujourd'hui nombreux sont ceux qui demandent l'asile et le gros des efforts entrepris par les États européens. C'est pour ça que je souhaite un grand courage
à Damien Carême.
À Damien Carême.
Il sera pas tout seul. Hein.
Il sera pas tout seul, mais je pense qu'il lui faudra beaucoup de patience, beaucoup de courage et une mobilisation constante. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des dossiers le plus important est celui probablement des demandeurs d'asile et des réfugiés, et ce depuis 2015. Et je ne suis pas sûr qu'il faille avoir... je ne suis pas sûr qu'il faut avoir honte d'être européen, parce que quand on regarde de près ce qui se passe dans tous les pays européens, en tout cas dans un grand nombre de pays européens, il y a quand même des gens qui crient au scandale, qui s'indignent, qui donnent de l'argent aux ONG et aux associations et qui font avec leurs petits moyens et qui font pression sur les États pour qu'ils se comportent un peu plus dignement à l'égard, en particulier des ONG qui portent secours en mer aux migrants.
Et puis il y a des pays européens malgré tout qui se mobilisent pour accueillir les réfugiés.
Malte, par exemple.
Quand ils sont accueillis dans un port.
Absolument. Malte, 460 000 habitants, a quand même accueilli un grand nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés. Et c'est quand même un tout petit pays. Et aujourd'hui, Malte, d'ailleurs, est de plus en plus réticent à accueillir ses demandeurs d'asile et ses réfugiés. En tout cas, les gens qui débarquent et qu'on fait débarquer ou qu'on relocalise, selon la terminologie indigène des associations.
Christian Reboul, il faut relativiser cet immobilisme de l'Europe.
Enfin, faut surtout aussi la souligner. Damien Carême vient de mentionner le drame qui a eu lieu le 25 juillet. Il y a eu un terrible naufrage, plus de 110 morts, 110 à 150 morts. Avez-vous entendu des autorités politiques d'États membres s'indigner, porter une voix autour de ce naufrage? Ça a été un silence assourdissant. Et je voudrais juste revenir à six ans en arrière. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2013, il y a eu un autre terrible naufrage au large de Lampedusa, 366 morts en un seul naufrage. Dès le lendemain, il y a tout de suite eu à l'unisson des dirigeants européens qui parlaient du plus jamais ça. Quelque part, le plus jamais ça s'est imposé. Et c'est à partir de là que les autorités italiennes, qui avaient été extrêmement réactives, ont mis en place l'opération Mare Nostrum, qui a été une des plus grandes opérations de sauvetage au monde et qui a sauvé plus de 200 000 personnes. Il faut savoir qu'à l'époque, les gardes-côtes italiens qui ont mené ces opérations de sauvetage étaient applaudis à leur arrivée dans les ports. On les appelait les anges de la mer. Or, aujourd'hui, où on en est ? Il y a eu ce naufrage il y a deux semaines, pas une seule réaction. On en est au fait que, au niveau de l'Italie, par exemple, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini interdit à son bateau de gardes-côtes italien d'accoster lui-même dans son port.
Bien entendu, mais à contrario, Christian Reboul, 40 migrants de l'Alan Kurdi ont été débarqués à Malte dimanche et répartis dans plusieurs pays. Fin juillet, 140 migrants du Grigoretti, un navire garde-côte italien, ont été débarqués en Italie et répartis dans plusieurs pays. Il y a quand même des choses qui se font.
Alors, il y a des choses qui se font, mais il faut le voir, la temporalité. Lorsqu'on revient sur, par exemple, le bateau du Sea-Watch de la capitaine Carola Racketeux, le bateau est resté en errance pendant 17 jours avec 40 personnes seulement, j'ai envie de dire, 40 rescapés à son bord. Et les États européens ont mis plus de deux semaines pour se mettre d'accord, pour se répartir quand même 40 personnes. Alors, vous avez mentionné le Grigoretti. Effectivement, c'était un bateau des gardes-côtes italiens. Ça a été 6 jours. Donc, à chaque fois, on est dans une négociation ad hoc. L'Alan Kurdi a été plus rapide. Visiblement, l'Allemagne a réagi très rapidement. Mais sauf qu'à l'heure où on en parle, vous avez un bateau catalan qui est de l'ONG Open Arms, avec plus de 100 personnes à son bord.
121 migrants. Voilà. Bloqués en mer depuis 5 jours.
Depuis 5 jours. Mmh. Et on attend une répartition. Encore une fois, on est dans une tractation ad hoc entre chefs.
C'est le scénario qui se répète, je l'ai dit. Alors, un nouvel appel avant de continuer ce débat, c'est Jean. Bonsoir à vous, Jean. Vous êtes à Paris, nous vous écoutons.
Oui. Bonsoir, merci de me donner la parole, de me permettre de faire entendre une voix autre, un autre son de cloche, parce que moi je pense que si les gens meurent en mer, ce qui est évidemment dramatique, ce n'est pas parce que l'Europe est fermée, mais au contraire parce qu'elle est ouverte. Ce qui constitue une incitation à l'émigration vers l'Europe. Hein, par exemple, pourquoi les personnes venant du Pakistan, d'Afghanistan ou de Syrie ne vont-ils pas dans les pétromonarchies du Golfe, qui sont plus proches de chez eux, plus riches et qui ont la même culture ? Parce qu'ils savent que s'ils entrent en Europe, ils ne seront pas expulsés. Alors moi je trouve qu'il y a sous-jacent à cela un sentiment de culpabilité des Européens de l'Ouest en relation avec l'esclavage et la colonisation, c'est-à-dire les mauvaises actions faites par leurs ancêtres ou leurs aînés. Or les Européens de l'Ouest de 2019 ne sont en rien responsables de cela. Et d'autre part, il est légitime pour un pays de maîtriser son immigration. Et enfin, j'ajoute que je ne suis absolument pas quelqu'un d'extrême droite. Hein, je suis de la gauche modérée. Hein, je suis attaché aux droits de l'homme, aux droits humains. Mais là, ce que vous défendez, c'est un dévoiement des droits de l'homme. Ce ne sont pas les droits de l'homme. Hein, parce que c'est les ONG avec les réseaux organisent l'émigration des gens qui meurent de faim.
Vous ne pouvez pas dire qu'elles les organisent. Vous pouvez considérer qu'elles se font inconsciemment complices, des passeurs, mais c'est pour la bonne cause.
Plus que cela. Elles incitent à l'émigration vers l'Europe. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est probablement aider de doubler par exemple l'aide publique au développement des pays pauvres, lutter contre la surpopulation, à alphabétiser en particulier les jeunes filles, etc.
Bien d'accord, bien compris Jean, votre point de vue, mais ce sont des actions à long terme. Smaïn Lachère, une réaction.
D'abord, l'affirmation selon laquelle les ONG et les passeurs organiseraient les flux migratoires.
C'est ce que dit Salvini.
C'est ce que dit Salvini, mais c'est objectivement une contre-vérité historique. D'abord, les passeurs existent depuis longtemps. Et heureusement qu'il y a eu des passeurs dans l'histoire. Je pense en particulier à la résistance. S'il n'y avait pas des passeurs pour faire passer quelques résistants dans un pays plus sûr, les résistants auraient probablement eu beaucoup plus de problèmes. D'abord, voilà. Les passeurs existent devant...
C'est pas tout à fait de même nature, mais...
Ce n'est pas de même nature, mais il n'en reste pas moins vrai que les passeurs existent depuis toujours, depuis qu'il y a des flux migratoires. Surtout, les passeurs existent depuis qu'il y a des frontières à passer.
Alors Matteo Salvini ne dit pas les passeurs, il dit ça ne fait qu'encourager les mafias.
Oui, mais vous avez vu que... il y a eu un décret qui a été adopté en Italie contre les migrants et certaines ONG qui viennent au secours des migrants en mer. Ce décret se concentre quasi exclusivement sur les ONG. Et c'est un décret qui, quasi exclusivement, cherche à criminaliser les ONG. Il y a très, très, très peu de choses, par exemple, sur les mafias. Alors que, effectivement, il a dit qu'il fallait aussi s'en prendre aux mafias. Donc, il n'y a pas de relation. Ça, c'est très, très important de le dire. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de connivence, il n'y a pas de complicité. Par ailleurs, je voudrais simplement faire remarquer à notre auditeur que... l'écrasante majorité des personnes qui se déplacent, en réalité, se déplacent proche du pays qui est le leur, c'est-à-dire d'un pays qui est aussi misérable que le leur, qui les persécute tout autant, etc. Donc, 80% des déplacements de population se font soit à l'intérieur
chez les pays
de leur
ou dans pays, les pays voisins,
soit dans les pays immédiatement limitrophes. Donc ça là, là non plus, on ne peut pas parler...
dans le cas où les pays limitrophes sont en mesure de les accueillir.
Voilà. Ouais. Alors quand on ne peut pas les accueillir, quand ces pays limitrophes se retrouvent...
pour les Érythréens,
absolument,
pour les Afghans...
Se retrouvent devant le fait accompli, alors il y a le HCR qui sait dresser des tentes et qui accueille, et qui accueille ces réfugiés, ces demandeurs d'asile.
Christian Reboul.
Oui, je crois qu'il faut revenir aussi à une certaine réalité. Qui sauve actuellement sur cette route de la Méditerranée centrale 90% des personnes? C'est d'abord la marine marchande qui passe le canal de Sicile, les pêcheurs qui croisent aussi dans la zone et les gardes-côtes italiens. Donc croyez-vous que les gardes-côtes italiens sont complices des passeurs? Je crois que ça n'a pas vraiment de sens. Donc 10% actuellement, alors ça varie selon les entraves, les mises sous séquestre des différents bateaux, mais 10% des personnes sont sauvées par les ONG, mais malgré tout, encore une fois, leur action est fondamentale. Et la seule corrélation, en fait, qui est prouvée, c'est le fait qu'il y ait moins il y a de bateaux dans la zone, plus il y a de morts noyés. Et c'est la seule corrélation que l'on peut émettre.
Damien Carême, une réaction à ce que nous disait Jean, qu'il y a dans cette ouverture européenne une forme de culpabilisation par rapport à l'histoire?
Non, il y a simplement que l'Europe, avec les moyens dont elle dispose en tant que première puissance économique mondiale, a les moyens d'accueillir ces personnes. Et je rappelle que quand même ces personnes ne quittent aucune d'entre elles ne quitte son pays par plaisir. Elle le fait parce qu'elle est forcée. L'aide au développement ne suffit pas. Déjà, on n'est pas à la hauteur de l'aide au développement dont on s'était engagé. L'Europe a conditionné l'aide au développement au fait que les pays à qui elle verse cette aide, ben finalement, gardent les migrants chez elles. Donc, ce n'est plus une aide au développement. C'est pratiquement une frontière qu'on leur demande de garder chez eux et on rétribue cette frontière chez eux. Et enfin, c'est pas que le problème du développement économique. Quand on voit les Érythréens, les Soudanais qui sont sur la route, c'est quand même des conflits aujourd'hui extrêmement importants. D'ailleurs qu'on attise ces conflits avec les ventes d'armes dans un certain nombre de pays qui sont en guerre contre ces pays. Donc ce n'est pas seulement que l'aide au développement de ces pays-là qu'il faut voir, mais c'est toute une stabilisation de cette partie du monde. En attendant cette stabilisation, c'est vrai aussi en Afghanistan, c'est vrai en Irak, c'est vrai en Syrie aujourd'hui, et en attendant cette stabilisation, il faut bien parer à l'urgence et donc venir et à apporter cette aide dont l'Europe a les moyens, l'Europe dispose des moyens pour accueillir ces personnes qui ne sont pas si nombreuses que ça, finalement, comparativement au nombre d'Européens que nous sommes, plus de 510 millions. On en a accueilli quelques millions, ça représente un infime pourcentage de la population européenne.
Alors qu'est-ce qui bloque, Damien Carême? Est-ce que le mécanisme de solidarité proposé par Emmanuel Macron et qui tarde à se mettre en place, mais qui doit être discuté à Malte en septembre prochain, est-ce que c'est un bon début?
Bah, je je l'espère, mais excusez-moi, les promesses d'Emmanuel Macron, il nous en avait fait pendant la campagne, on les a pas vues à jour aujourd'hui. Combien de fois il y a eu ce bateau qui a demandé l'Aquarius à l'époque, qui demandait un port pour accoster, et le président de l'Assemblée Corse avait proposé de l'accueillir en Corse, et il y a eu un refus du gouvernement français. Je pense que devant les urgences aujourd'hui, il faut le faire immédiatement et qu'on continue à négocier pendant ce temps-là. Mais surtout, il faut prendre les devants. Il faut que la France soit en première ligne. Le pays des droits de l'homme ne doit pas rester le pays de la déclaration des droits de l'homme, mais faire en sorte que ces droits de l'homme soient respectés et dénoncer les accords que nous avons passés avec la Libye. Au Parlement européen, je suis assis à côté d'un social-démocrate italien qui était en fait le médecin de Lampedusa, que j'avais rencontré à Lampedusa quand j'y suis allé en 2016. Il m'a montré les images atroces aujourd'hui de ces migrants qui traversent la Libye et qui arrivent à Lampedusa. Mais ils sont torturés. Il a même des images de décapitation de ces migrants-là. Et aujourd'hui, l'Europe verse 81 millions par an à la Libye pour garder ces migrants chez eux. C'est un vrai scandale. Il faut dénoncer tout ça et repartir sur d'autres bases que les bases sur lesquelles nous sommes aujourd'hui.
Smaïn Lachère, les valeurs européennes, c'est pas un mythe. Elles existent.
C'est pas un mythe, mais peut-être qu'il faut rappeler aux amnésiques trois petites choses qui ont tout de même leur importance. Et il faut savoir parfois s'extraire du présent ou de l'actualité et de ne pas tomber dans un présentisme relativement stérile. Le premier point, c'est que c'est l'Europe qui a été le premier foyer dans l'humanité d'immigration. Ce sont par millions que les Européens au 18e et au 19e siècle, et en particulier au 19e siècle, ont émigré vers ce qu'ils ont appelé les nouveaux mondes. Bon. Un pays une ère géopolitique, l'Europe, de conquête et de colonisation. Le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce à quoi nous assistons sur les mers et en particulier sur cette problématique des bateaux qu'on rejette systématiquement au large des côtes, c'est que ce n'est pas du tout un fait nouveau. C'est un fait qui date des années 30, et je vous demande simplement de vous souvenir de ce fameux bateau qu'on appelait le Saint-Louis, et qui en 1939, avec 937 passagers, avait fui l'Allemagne, et les 937 passagers étaient des exilés qui fuyaient le Troisième Reich. Plusieurs bateaux, des dizaines de bateaux depuis les années 30 ont circulé en mer avec des exilés sans jamais trouver un port pour...
L'immigration, l'accueil des étrangers, ça a toujours suscité des crispations.
Ça a toujours suscité des crispations, et en particulier depuis que les États-nations existent comme États-nations, depuis que les frontières sont un problème. Et puis, enfin, ne perdons pas la mémoire, la Libye, qui n'est plus un pays, et qui donc laisse un véritable boulevard, une véritable autoroute pour les passeurs et les trafiquants de tout genre. N'oublions pas que pour la Libye, l'Europe et la France n'est pas exempte de responsabilité sur ce qui s'est passé et sur ce qui continue à se passer aujourd'hui.
Dans un instant, un nouvel appel. Christian Reboul, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, alors je me placerai dans un temps beaucoup plus court que M. Lachère et voir cette évolution quand même pour revenir sur le sauvetage en mer et cette perception. On a le sentiment qu'il y a une accoutumance aux tragédies, le sentiment que ce qui était normal il y a peu ne l'est plus et que quelque part les digues mentales sautent une à une. Dès lors qu'il s'agit de migrants, toute politique devient légitime, y compris celle de les laisser se noyer en mer. Et c'est extrêmement inquiétant comme évolution.
Oui. C'est inquiétant, c'est vrai, mais je crois que nous y perdons notre âme parce que les marins, tous ceux dont l'existence a parti liée à la mer et au secours en mer, ne peuvent pas admettre, ne peuvent pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Comment peut-on être à la fois un État digne de ce nom, se dire démocratique, et laisser périr, d'une manière ou d'une autre, laisser périr des gens en mer. Et c'est pas parce que ils vont mobiliser des bateaux de guerre, fermer les frontières, arrêter les visas, aider les gardes frontières libyens, que la problématique de la circulation forcée ou du déplacement forcé de population va s'arrêter par enchantement.
Eh bien justement, je crois que c'est ce dont veut nous parler Pierre. Bonsoir à vous, Pierre.
Oui, bonsoir.
Vous êtes dans le Nord.
C'est ça exactement, je suis dans le Nord, je travaille à Grande-Synthe justement, donc Monsieur Carême doit bien connaître cette ville.
Ah oui, effectivement, hein. Il a été le maire de Grande-Synthe, hein, je ne l'ai pas précisé oui. Tout à l'heure. Allez-y Pierre.
Ah donc voilà, je suis militant dans plusieurs associations qui accueillent les migrants sur notre territoire. Moi j'aimerais rappeler quand même que c'est la France, cette démocratie soi-disant, qui exporte beaucoup d'armes et qui gagne énormément d'argent dessus. Donc c'est nous qui créons la guerre, la misère, et c'est nous qui créons la mort dans leur pays. Donc le fait de traverser la mer, c'est un cri du désespoir. Et enfin, j'aimerais aussi également terminer en parlant du dérèglement climatique, que en fait actuellement les migrations ce n'est que le début, et à cause de ce dérèglement, il y en aura de plus en plus. Et donc faire abstraction de ce problème, ça ne fera que le renforcer. Et enfin, j'aimerais terminer en disant qu'on organise à Saint-Verc un petit événement dans le Nord-Pas-de-Calais, samedi, là, où il y aura plein d'associations, et voilà, on en sera 300 personnes. C'est à Saint-Verc, c'est ce samedi.
Eh ben voilà, vous avez raison d'en profiter. Damien Carême, vous entendez le témoignage de Pierre, l'un de vos anciens administrés.
Bénévole.
Bénévole, bien sûr. Ouais. Revenons à ce qu'envisagent les Européens, une répartition automatique des migrants. 14 pays sont d'accord, hein, le mécanisme devrait être acté au mois de septembre. La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, plaide pour une reprise des secours en mer, plaide aussi pour une politique commune d'asile. Donc, il y a plein de choses qui sont en préparation, mais on n'en voit jamais le jour. Qu'est-ce qui bloque ?
Alors, il y a déjà quelque chose qui est bloqué par le Conseil de l'Europe, par les chefs d'État, c'est en fait la réforme de Dublin qui a été adoptée par pratiquement les trois quarts du Parlement européen il y a déjà plus d'un an.
Alors, faut rappeler ce qu'est le processus de Dublin, hein, c'est qu'un réfugié arrivant en Europe doit être traité, son dossier doit être traité dans le pays d'accueil.
Dans le pays dans lequel il est arrivé. Donc c'est souvent l'Italie et la Grèce, puisque c'est par là qu'arrive quand même le plus grand nombre, qu'arrivait au moins le plus grand nombre de personnes, même si maintenant ça a tendance à se replier un peu vers l'Espagne. Donc effectivement, et c'est ce qui a créé d'ailleurs, ce qui a généré l'avènement de Salvini au pouvoir en Italie, parce qu'on a laissé l'Italie se débrouiller toute seule et que cette solidarité européenne n'a pas joué. Donc en fait, il y a déjà donc cette réforme de Dublin qui avait été adoptée par le Parlement, qui était beaucoup plus intéressante que la précédente, c'est-à-dire qu'au aujourd'hui, enfin, la relocalisation dans un pays se faisait en fonction des attaches familiales qu'il pouvait y avoir avec ce migrant qui demandait à arriver dans tel ou tel pays européen. Donc, il y a eu du progrès, même si tout n'était pas rose dans cette réforme-là. Elle était déjà dans une meilleure, elle allait dans une meilleure direction que celle qui est en cours actuellement et qui est effectivement une véritable impasse et qui est un échec total. Donc, il faut remettre à plat. Effectivement, Ursula von der Leyen, quand elle a été élue, a promis qu'elle s'engagerait sur cette voie-là. Ce qu'on lui a demandé, nous, les écologistes européens, c'est de déjà négocier avec les chefs d'État européens pour qu'ils mettent en œuvre cette réforme-là et qu'on s'engage, effectivement, à aller beaucoup plus loin avec l'urgence de mettre en œuvre aujourd'hui le sauvetage en mer. Et elle nous parle de Frontex et de remettre 10 000 agents supplémentaires dans Frontex, mais Frontex, aujourd'hui, ne porte pas secours. Frontex organise la défense de nos frontières européennes. Mais n'est pas là pour porter assistance.
Les opérations navales en Méditerranée de la flotte européenne, pour résumer, ont été interrompues, hein, rappelons-le.
Exactement.
Mais surtout, les 28 ne sont pas d'accord, Damien Carême. Vous oubliez de préciser que toute une partie des Européens ne veut pas accueillir de réfugiés.
Exactement, les Slovaques et beaucoup de pays de l'Est européen refusent de le faire. Après, il faut qu'on commence avec les pays volontaires. Et moi, j'ai un grand regret, c'est qu'à l'époque, quand pourtant Angela Merkel mon idole politique, avait en 2015 ouvert les frontières en disant on va accueillir 1 million de personnes. À ce moment-là, Manuel Valls, au lieu d'aller lui faire la leçon, aurait dû emboîter le pas d'Angela Merkel. D'autres pays européens auraient emboîté le pas et on n'en serait pas dans cette situation désespérante dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on aurait beaucoup avancé. Donc le faire petit à petit, bien évidemment, avec les pays volontaires, mais pourquoi attendre septembre? Il y a des gens là qui se noient en Méditerranée aujourd'hui. Il faut qu'on aille porter secours immédiatement.
Alors justement, comment accueillir les migrants? Comment se les répartir? L'image est malheureuse, mais c'est la question que voudrait nous poser, je crois. Alexandre, bonsoir à vous Alexandre.
Bonsoir et merci pour vos émissions.
Vous êtes à Paris, allez-y, nous vous écoutons.
Ma question concerne les réfugiés climatiques, en Méditerranée ou non. Comment l'Europe va se les répartir?
Voilà, ce mot de répartition, Christian Reboul.
Alors, oui, on attend de toute façon un accord. On a les prémices d'un accord. Il y a eu cette réunion à l'Élysée le 22 juillet dernier.
Entre 14 pays.
Hein, alors oui, le président Macron a parlé de 8+. 8 pays qui seraient plutôt enclins à conclure un accord. Donc, faut aller concrètement pour éviter encore une fois ces marchandages ad hoc à chaque bateau vers un accord qui prévisible, pérenne et qui définisse peut-être des clés de répartition en fonction peut-être de la population, du poids du pays dans l'Union européenne, pour qu'à chaque fois qu'il y ait des rescapés sur un bateau, le bateau s'approche d'un des ports proches et sûrs, donc
identifier
plutôt
des ports de débarquement qui soient sûrs.
Ah ben là les choses sont très claires. Voilà. Proche et sûr, c'est Malte et l'Italie, mais que la répartition se fasse automatiquement entre pays. Donc il faut que ça soit pérenne, prévisible et quasi automatique une fois que le bateau est présent dans un de ces ports sûrs.
Et ce qu'il faut préciser, Christian Reboul, c'est qu'il n'est pas question évidemment de ramener ces migrants en Libye, comme certains le demandent, puisque les ports libyens, on ne peut pas appeler ça des endroits sûrs.
Évidemment, non. On connaît la situation des migrants en Libye. Le président Macron, lui-même, il y a 2 ans, en marge d'un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, avait parlé d'un crime contre l'humanité, contre les migrants en Libye. Mais là, on touche presque à une forme d'ambiguïté et presque de cynisme de la part de certains chefs d'État. On parle beaucoup avec raison, on critique beaucoup le Monsieur Salvini. Mais Emmanuel Macron a un discours assez protecteur, parle de droit d'asile, mais parle de cette situation en Libye. Mais en même temps, si vous voulez, fait tout ou aide les gardes-côtes libyens pour intercepter ces personnes et pour qu'elles soient renvoyées, refoulées en Libye vers leur oppresseur. Et donc là, il y a une espèce d'ambiguïté, de cynisme extrêmement fort. Et même l'ONU, si vous voulez, la mission des Nations Unies en Libye, a enjoint les États membres de l'Union européenne de cesser toute coopération avec les gardes-côtes libyens, dont on connaît la collusion avec les passeurs, et étant donné la situation en Libye. Et la France est en train de donner des vedettes rapides à la Libye, comme l'a fait Matteo Salvini et l'Italie.
Oui, allez-y.
Non, je crois qu'il n'y a pas que les ports en Libye qui sont incertains. C'est la Libye qui est incertaine. Quel que soit le coin du territoire, je ne sais même plus si la Libye peut être objectivement et même voire juridiquement qualifiée de pays. Alors, on est intervenu, je ne discuterai pas le bien fondé de cette intervention ici, on est intervenu en Libye pour chasser Kadhafi. Ce qui se passe en Libye avec les subsahariens et les centres de détention dans lesquels ces subsahariens sont mis pour être violés, raquettés, rançonnés, etc., est plus qu'inadmissible. C'est quand même quelque chose de relativement rare aujourd'hui sur la planète. Alors je me pose la question de savoir pourquoi on n'intervient pas précisément pour entre guillemets libérer ces subsahariens de leurs bourreaux qui sont des Libyens.
C'est la première des mesures que réclament les ONG, hein, la libération des migrants qui sont retenus en
pourquoi
Libye.
Pourquoi pas, au lieu de les bombarder. Bon, et le deuxième point qu'a soulevé votre auditeur et qui est un point important, extrêmement compliqué et aléatoire, au moins à court et à moyen terme, c'est celui des réfugiés climatiques. Alors vous savez que la notion de réfugiés climatiques n'existe pas. Bon, et puis les réfugiés climatiques seront sans aucun doute, d'abord des déplacés internes, car les réfugiés climatiques sont sur les côtes et la montée de la mer les fera reculer, les obligera à déménager à l'intérieur de leur pays. Et donc nous allons assister probablement dans un premier temps à des flux considérables de déplacés internes qui vont s'ajouter à d'autres déplacés internes dus à la guerre. Donc et puis il faudra se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un réfugié climatique. On sait ce que c'est qu'un réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951. On ne sait pas encore très bien.
Enfin, quelle que soit l'appellation du réfugié, quand il est en perdition, on va le secourir.
Oui, mais les États vous diront toujours qu'il y a un droit international, qu'il faut s'appuyer sur des textes, etc. Donc, il est important que le rapport de force soit plutôt en faveur de ceux qui pourront définir ce que c'est qu'un réfugié climatique.
Alors, on parle beaucoup des conséquences donc de l'immigration. Peut-être faut-il aussi évoquer les causes, Marie-Josée. C'est ce dont vous voulez nous parler. Vous êtes à Montpellier, je crois.
Oui, tout à fait. Merci. Oui, effectivement, je suis avec beaucoup d'attention l'émission, hein, et bon, en tant qu'Africaine, bien entendu, je suis assez choquée, scandalisée par ces problèmes d'immigration et surtout de ces immigrants qui meurent en Méditerranée. Mais moi, je voulais justement aborder ce problème des causes. Vous savez, l'Africain ne quitte pas son pays par plaisir. Ne quitte pas sa terre par plaisir. Vous le savez, la culture africaine est une culture de terre. Et donc, quand les gens quittent leur famille pour prendre ce risque de venir en Europe, quitte à mourir en mer, je pense que c'est pas par plaisir. Alors, les Africains, même si nous vivons en Occident, on ne peut pas se détacher de l'Afrique. Et quand on voit ça, on est un peu scandalisé. On se dit, mais les causes, on les connaît. On les connaît les causes et il serait intéressant de travailler les causes plutôt que de travailler les conséquences. Un exemple simple, pas plus tard que le 12 juillet, un jeune homme, Ngomo Priva, au niveau du Gabon, à Libreville, a adressé un message à la France, devant l'ambassade de France au Gabon, en expliquant que la politique africaine de la France dans les pays africains est responsable en partie à l'immigration clandestine. Et donc, si effectivement cette politique était modifiée avec cette nouvelle génération, nous sommes convaincus qu'au niveau de l'Afrique, l'Afrique se développerait parce qu'il y a des possibilités, il y a des potentialités, autant physiques que matérielles, que financières, pour pouvoir développer le continent. Et l'immigration, elle ne se ferait pas entre le continent africain et l'Europe, ce serait une immigration inter-africaine.
Bien sûr, Marie-Josée.
Voilà.
Oui, merci.
C'est une des solutions. Donc, bien c'est sûr. Une des causes, voilà, qu'on aimerait bien que ce soit effectivement vu, enfin qu'on puisse parler réellement des causes et surtout trouver des solutions, parce que sinon, toutes les solutions qui seront trouvées ne pourront pas arrêter l'immigration clandestine.
Merci de votre témoignage, Marie-Josée. C'est aussi ce que nous dit Patrick par mail, hein, que la crise des migrants se résoudra jamais tant que la pauvreté ne sera pas combattue en Afrique. Jamel également nous dit, ne faudrait-il pas plutôt envoyer des cohortes de médecins et des ingénieurs agronomes en Afrique plutôt que de se donner bonne conscience en envoyant des bateaux. Damien Carême, soutenir l'Afrique, là on est dans le long terme, hein, plus que dans l'urgence, mais là aussi, l'Europe, elle tient son rôle malgré tout dans l'aide au développement.
Damien Carême. On n'est pas oui. Au niveau qu'on s'était fixé. Oui, pardon, vous m'entendez ?
Allez-y.
Oui. Allô ?
Oui, nous vous entendons. Oui.
On n'est pas au niveau de ce que nous avions décidé. Les pays européens ne sont pas au niveau d'aide au développement ce que nous avons décidé. Et surtout, je le disais tout à l'heure, il y a un dévoiement de ces aides au développement. Et donc, effectivement, il faut entreprendre des partenariats. La question des ventes d'armes aussi est une vraie question qu'il faut se poser. On voit bien les dégâts que ça cause dans les pays européens, les relations que nous entretenons
dans les pays africains,
différents pays européens avec les dictatures. les relations que nous entretenons avec un certain nombre de dictatures dans ces pays-là faussent la règle aussi. On voit bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive du Tchad parce qu'il fuit un pouvoir politique, aujourd'hui ne reçoit pas la demande d'asile, n'est pas la demande d'asile lui est refusée en France, compte tenu des amitiés qu'il y a entre la France et le Tchad. Donc il y a plein de choses qu'il faut remettre à plat. Et l'Europe doit aussi revoir complètement son mode d'accompagnement des pays africains. Et quand je dis accompagnement, il ne s'agit pas de retomber une nouvelle fois dans une forme de colonialisme, mais c'est l'aide qu'il faut apporter. Et arrêter, vous savez, il y a des conséquences terribles des politiques européennes. Si je ne prends que la politique agricole commune, il est aujourd'hui, on empêche des agriculteurs, des éleveurs de poulets africains de vivre de leur propre production, parce que nos poulets, nous, à nous, subventionnés, coûtent moins cher en Afrique que ce que les Africains produisent eux-mêmes.
Il n'y a pas que les poulets européens, il y a les Américains, c'est pas uniquement la politique agricole commune.
Je prends cet exemple-là, oui, mais d'accord, mais...
Non, mais bien compris,
C'est une des conséquences de nos politiques européennes.
Smaïn Lachère, la seule solution à la crise migratoire, c'est
le développement. Non, mais il n'y en a pas. S'il y en avait eu, je vous assure qu'on l'aurait trouvé. Non, pour le moment, il n'y en a pas. Et pour le moment, les puissants n'ont qu'une seule obsession, c'est d'endiguer ce qu'ils appellent les flux migratoires. Mais je voudrais juste dire deux toutes petites choses, très rapidement. D'abord, on devrait avoir le droit de quitter son pays par plaisir. Il n'y a pas que les Américains, les Anglais, les Français, les Néo-Zélandais qui peuvent quitter leur pays par plaisir pour aller faire le tour du monde ou du tourisme. C'est-à-dire à côté des
Mais là, on ne parle pas de tourisme.
Absolument. Mais pourquoi on ne quitterait pas son pays par plaisir? Or, il y a des contrées où celui qui a envie de quitter son pays par plaisir, eh bien, ne le peut pas parce qu'il est simplement suspecté d'émigration. Et puis, la deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que il faut mettre l'Europe au pied de ses responsabilités, mais il ne faut pas pour autant absoudre les dirigeants africains de leurs responsabilités dans ces catastrophes humanitaires.
Christian Reboul.
Oui, vous parliez de l'aide publique au développement. Alors, l'aide publique au développement peut avoir un effet, mais à très long terme. Et si vous voulez, la politique d'aide au développement de l'Union européenne n'est pas en volume, à niveau. Celle des États membres non plus. Ils s'étaient fixés des engagements en pourcentage de revenu national brut qui n'ont jamais été atteints. Et surtout, elle est maintenant conditionnée à des mesures que doivent prendre les pays qui reçoivent cette aide pour les forcer à contrôler leurs frontières. On n'est plus dans une aide au développement qui est là pour justement faire du développement. On la conditionne au contrôle des frontières. Et pour retrouver un peu cette pureté de l'aide au développement, ça c'est sûr, et c'est seulement encore une fois qu'à très long terme qu'elle aura un effet, pour que les personnes retrouvent finalement le choix de rester ou de partir. Mais ça doit être un choix personnel.
Pour terminer, Christian Reboul, est-ce que vous comprenez malgré tout les commentaires, je ne les ai pas tous cités, mais de beaucoup d'auditeurs qui nous disent que les passeurs se font quand même des fortunes sur le dos des ONG, finalement. Est-ce que vous comprenez que des gens pensent que la politique intérieure, ça compte aussi, et que la pression des opinions, c'est important aussi, et qu'il faut en tenir compte?
Alors sur votre deuxième partie, oui. Pas sur l'idée amalgame ONG passeur, évidemment. Non, c'est normal d'être bousculé lorsque l'on a en bas de chez soi, peut-être si vous êtes parisien, vous avez des campements au nord-est de Paris, des gens qui vivent à la rue. Vous êtes peut-être bousculé, monsieur Decan, monsieur Lachère, moi-même, les auditeurs aussi, parce que c'est pas normal de se retrouver à la rue, de se retrouver dans cette précarité. On le voit très bien par nos actions auprès de ces personnes à Médecins du Monde. Sauf que voilà, il y a des réactions différentes. Il y a souvent des réactions de solidarité et il y a aussi des réactions de rejet. Faut voir que dans beaucoup d'endroits, ça se passe très bien. Par exemple, en France, l'intégration se fait, l'accueil se fait. Toujours avec des petits moments un peu au départ difficiles, mais ça se passe plutôt bien.
Ce qui permet de ne pas désespérer.
Voilà. Et là, on parle vraiment d'une situation paroxystique qu'il faut arriver à résoudre.
Voilà, et je rappelle pour conclure que ce qu'a dit le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, que les ONG jouent un rôle inestimable, que l'engagement et l'humanité qui les motivent ne doivent pas être criminalisés, allusion bien sûr au fameux décret dont on parlait, le décret de Matteo Salvini. Merci à vous tous. Christian Reboul, le référent migration de Médecins du Monde, Smaïn Lachère, sociologue à l'Université de Strasbourg. Je rappelle votre dernier ouvrage, Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile. Vous racontez votre expérience dans cette cour où vous avez siégé 14 ans. Merci à vous aussi, Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe et aujourd'hui eurodéputé Europe Écologie Les Verts.